Bonjour à tous et bienvenue dans Ouvre-la, le magazine d'actualité d'un lycéen. Comme d'habitude, j'anime l'émission avec mon père.
Salut. Bonjour.
On est en live dans les locaux de Cause Commune. En parlant de Cause Commune, vous nous écoutez soit en FM 93.1 dans Paris et dans sa région, soit en DAB, soit sur internet à l'adresse cause-commune.fm. Et vous pouvez aussi nous écouter en podcast sur le site de Cause Commune.
Et regardez bien la date, parce que si on est le 29 juin à 14h, on est en direct.
Et sinon, vous êtes sûrement
en train d'écouter une rediffusion.
Exactement. Vous pouvez faire des dons à Cause Commune via le site, via le Hello Asso.
Ouais, il y a eu un bandeau tout en haut de la... De la page web de la radio cause-commune.fm qui pour accéder directement à la page de don. Ah.
Bon, on va commencer. Alors, c'est les vacances.
Ouais.
L'été, la plage, la canicule, les coups de soleil.
Les cahiers au feu, la maîtresse au milieu.
Voilà. Enfin, ça, c'est si vous n'êtes pas coincé dans un bureau sans clim, mais ne vous inquiétez pas. Nous autres lycéens, on stresse toujours, on n'a toujours pas nos résultats du bac. Et justement, on va parler aujourd'hui de bac, mais aussi d'autres sujets de stress, genre Parcoursup. Et finalement, on parlera aussi de parasocial.
Alors, le parasocial, dans quel cadre?
On va faire, on va en parler un peu généralement, et puis on va parler notamment de la manière dont les jeunes y sont exposés, donc via Internet. Voilà. Bon, pour commencer, le bac. Alors, le bac, baccalauréat, ça existe depuis... Est-ce que tu sais depuis quand ça existe?
Je sais pas précisément. Moi, je vais essayer de deviner 1870.
Ah, ça fait un peu... 1870, c'est un peu tard, tu penses pas?
J'en sais rien, l'école. Je sais pas, dis-moi.
C'est aussitôt que 1808.
1808, le premier baccalauréat.
Ouais, avec la première édition en 1809, ce sera très réduit à l'époque, hein, il y aura seulement 30 bacheliers, et à partir de là, ça va seulement s'étendre jusqu'à aujourd'hui, toucher à peu près tous les élèves de 17 à 18 ans en France.
La moitié d'une tranche d'âge seulement.
Ça, c'est pour le bac général. Aujourd'hui, le bac, il est séparé en trois catégories. Le bac général, qui est passé par la moitié, enfin qui réussit par la moitié d'une génération. Le bac technologique, qui est un bac qui va amener à des métiers plus précis, typiquement du laboratoire ou du...
La cuisine.
Non, ça va être plus pro. Ça va être laboratoire, ça va être devenir manager. Donc, qui vont être une entrée dans le monde du travail plus récente que pour le bac général, mais qui vont quand même amener à des positions, mais qui sont pas une fin d'études rapide. Et enfin, on a le bac professionnel, qui là est fait pour des études courtes, qui vont rentrer dans le monde professionnel avec souvent des métiers qui sont un peu plus physiques, donc cuisine, mais aussi tout ce qui est travail d'usine, fonderie.
Oui, par exemple. Mais ça rentre dans le travail d'usine.
Ça rentre dans le travail d'usine. Le BTP, tout ça.
Est-ce qu'on peut dire que depuis 1808, le niveau fait que baisser?
On... C'est la critique qu'on fait souvent au bac, hein, et d'ailleurs quasiment tout le temps. Le bac, ce serait donné maintenant, ce serait quelque chose qui... Comment dire, qui n'aurait plus aucune valeur. Et c'est vrai que là où pendant longtemps le bac ça a été un marqueur social, il y avait seulement les élèves qui avaient les moyens de se payer des professeurs qui pouvaient ne serait-ce que le passer. Aujourd'hui le bac comme le brevet des collèges c'est devenu quelque chose qui est assez normal et qui est plus une certification qu'on a un certain niveau dans une discipline. Pour les bacs professionnels et technologiques, c'est indiqué par le type de bac. Typiquement, bac STHR, c'est un bac professionnel cuisine ou un bac professionnel hôtellerie. En sortant, on s'est certifié, vous savez travailler et vous organiser en cuisine ou en hôtel, etc. Pour les bacs technologiques, souvent, ça amène à quand même poursuivre ses études pour un BTS, par exemple. Et dans ce cas-là, ça va être plus... C'est quand même une certification que vous avez le savoir nécessaire pour commencer ses formations. Et le fonctionnement du bac général, il est un peu différent. En gros, en seconde, il y a déjà une séparation qui est faite entre les élèves. Les élèves qui... font un bac professionnel ne vont pas dans les mêmes lycées ou en tout cas ne sont pas dans les mêmes classes que les élèves qui font des bacs technologiques ou généraux. Passé la seconde, il y a un nouveau choix qui s'offre aux élèves. Ceux qui sont rentrés en seconde professionnelle restent en professionnel. Et ceux qui ont fait une seconde générale ont à nouveau ce choix de soit partir en technologique et du coup déjà s'orienter dans un domaine assez précis en fait. Il y a par exemple technologique STL, c'est sciences et technologies de laboratoire. Donc on a déjà une orientation qui est assez précise. Et du coup là, ils vont mener pendant 2 ans, donc pendant la première et la terminale, ils vont faire des études sur ça. Et pour les élèves qui en première poursuivent sur la voie générale, il y a depuis la réforme assez récente. Ils choisissent 3 spécialités, donc 3 matières pour lesquelles ils ont un attrait. Et après, en terminale, ils en abandonneront une pour se spécialiser seulement dans 2 spécialités. Et à partir de là, il y a un accès aux études supérieures. Je sais que ça n'a pas toujours été comme ça. C'est quelque chose d'assez récent. J'ai oublié de quand date la réforme, c'est très récent. Avant, c'était réparti en bac S, L et ES, donc scientifique, littéraire et... J'ai oublié, c'est quoi le dernier
Économique et social.
Économique et social.
À l'époque, ouais.
Voilà, aujourd'hui, du coup, ça permet une plus grande liberté, parce que typiquement... On peut avoir des élèves qui veulent faire des études scientifiques mais à l'étranger et qui du coup vont prendre spécialité maths, physique, chimie et anglais. Et du coup, ils vont avoir le bagage pour pouvoir après faire des études à l'étranger. Ils seront même peut-être plus facilement acceptés que s'ils avaient fait maths, physique, SVT par exemple. Ou au contraire, on peut avoir un élève qui... faire du littéraire mais qui a pas forcément envie de totalement abandonner les sciences et qui peut faire 2 spécialités littéraires genre littérature et philosophie mais garder pour juste la première l'aspect maths juste pour avoir quand même ce bagage parce que c'est quelque chose qui l'intéresse aussi. C'est quelque chose qui permet une liberté aussi hein, et c'est pour ça que aujourd'hui la majorité des élèves ceux qui veulent faire médecine et qui veulent forcément faire du scientifique après, hein, qui veulent devenir je sais pas, biologiste on peut quand même recréer des bacs comme avant en prenant que des spés scientifiques donc maths, physique, SVT que des spés littéraires, donc littérature, philosophie anglais et histoire mais Typiquement, moi, j'ai pris maths physique et SES, donc sciences économiques et
Alors, rappelle-nous
sociales.
dans quelle classe tu es déjà.
Je viens de finir ma première, du coup. L'année prochaine, je passe en terminale. Et du coup, cette année, j'avais pris maths, physique, chimie et sciences économiques et sociales. Et j'abandonne la physique-chimie, mais j'ai quand même, c'est-à-dire que j'ai quand même mon bagage scientifique.
Donc, t'abandonnes parce que ça s'est mal passé cette année.
Non, ça s'est très très bien passé. Pour le coup, j'ai beaucoup apprécié la physique-chimie. C'est juste que on va s'orienter en fonction de à mesure que notre projet professionnel ou notre projet de poursuite d'études il se précise.
Non, mais ce que je voulais aborder comme sujet, c'est le fait qu'il y a trois options en première et il n'y a plus que deux options en terminale, c'est bien ça?
Oui, c'est ça, et ça pose un problème effectivement, parce que la logique voudrait que on abandonne la spécialité avec lesquelles on a le plus de difficultés.
Ouais.
Et c'est ce que ferait la majorité des personnes si la spé qu'on abandonnait, et ben la moyenne qu'on a dans cette spé, elle rentre dans le cadre du contrôle continu du bac. C'est-à-dire que sur les 100 points du bac, il va y avoir 6 points qui vont être basés sur la moyenne de la spécialité qu'on a abandonnée en première. Ce qui fait qu'il va y avoir plusieurs élèves qui vont abandonner une spé où ils ont des notes acceptables, voire même bonnes, pour pouvoir tenter d'avoir des meilleures notes dans cette spécialité où ils sont en difficulté en terminale pour qu'ils puissent avoir des bonnes notes, des meilleures notes au bac, quitte à garder une spécialité qu'on n'apprécie pas.
Ça m'a l'air bizarre comme calcul. C'est-à-dire que tu garderais une spécialité que t'apprécies pas?
Oui, mais en me disant je vais beaucoup travailler l'année prochaine, je vais m'améliorer, comme ça j'aurai pas 6.
C'est le calcul que t'as fait, toi?
Non, mais perso j'avais 16 de moyenne dans mes trois spécialités.
Ah oui, d'accord. Ça
Ça
flexe sur les notes.
flexe sur les notes, mais parce que. Et je l'ai fait juste parce que ça a toujours été le projet de garder la physique parce que c'est marrant de faire joujou dans le laboratoire. Mais que mon projet professionnel, enfin professionnel, mon projet d'études, c'est faire du droit, voire même Sciences Po, et que pour ça, faire maths physique, c'est pas forcément intéressant. Alors que faire maths SES, c'est assez pertinent.
Ah, d'accord.
Voilà. Ensuite, bon, il y a ce truc aussi, les grandes écoles non scientifiques, donc typiquement Sciences Po, les écoles de droit, etc. En général, elles acceptent peu importe les spé. C'est-à-dire que bon, les gens qui arrivent à Sciences Po, il y en a, il me semble, plus de la moitié qui ont fait la spécialité histoire-géo, même peut-être les deux tiers, mais en fait, il y a toujours un tiers qui l'a pas fait ou qui l'a abandonné. C'est pas ça. Permet, il y a aussi cet avantage que ça permet d'un peu libérer les élèves de forcément faire que des sciences sociales au lycée, alors que c'est peut-être ce qu'ils vont faire en études supérieures. Voilà. Et aussi, bon, il y a toujours ce truc la possibilité d'avoir des options en plus des spécialités. Donc ça va être ajouté au bac aussi. Il va y avoir des notes supplémentaires et des heures supplémentaires qui vont permettre une option. Donc, de mémoire, y en a. Enfin, tant que c'est validé par l'éducation nationale, chacun peut avoir un peu ses options. Mais il y a des options comme pour faire du droit après, ou vu qu'il n'y a pas de spécialité droit. C'est les options qui vont primer. Pareil, il y a ce qui s'appelle maths experte. Donc, c'est un bagage mathématique supplémentaire pour si un élève veut faire une prépa maths après.
Il me semble qu'il y a des langues aussi.
Oui, en plus, il y a comme au collège grec et latin comme option, même si c'est un peu dur parce qu'il faut que les professeurs aient. Une certification, enfin c'est assez compliqué. En général, ils préfèrent juste faire des ateliers de latin et de grec qui peuvent apparaître sur
Je parlais des langues vivantes aussi.
langue vivante, pas en option.
Il n'y a pas d'option, je sais pas.
Non, par contre, il y a une option classe européenne
D'accord.
qui Oui, dans ce cas-là, ça fait un peu option langue. C'est des cours qui sont faits entièrement en anglais. Donc, typiquement, avoir 1 heure par semaine de cours d'histoire en anglais et d'histoire du monde européen, donc de l'histoire européenne. J'ai cette option. Donc, cette année, typiquement, on a traité de la manière dont marchait le Parlement européen à un moment.
D'accord.
Ou des différents types de démocratie en Europe. Donc, qui vont permettre de traiter ça, de savoir présenter des sujets en anglais. Et du coup, toutes ces options, en plus des spécialités, elles permettent à la fois aux élèves d'avoir une liberté dans leur choix et aussi de pouvoir se préciser plus tard, enfin se préciser assez rapidement ce qu'elles veulent faire dans le cadre, bah, dans le cadre de leurs études plus tard.
Ok.
Et il y a plein de critiques à faire à cette réforme, notamment Parcoursup, qui est un peu plus récent, mais qui pose des problèmes et dont on va parler. Mais en soi, c'est pas que des points négatifs et il y a beaucoup de personnes qui s'épanouissent en fait avec ce système-là de bac et de spécialité.
D'accord, donc pour toi, c'est plutôt positif.
Bah, de mon point de vue, oui. Ensuite, tous les problèmes, ils viennent forcément en fait du bac en lui-même.
Est-ce qu'on passerait par un peu de musique avant de parler de Parcoursup en particulier?
Bah oui, c'est pas une mauvaise idée. On va passer Give Me a Chance de Dreamer Isioma.
Down, I'm 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 down,
de retour à l'antenne de Cause Commune. Nous sommes dans l'émission Ouvre-la de Solal.
Oui, c'est ça. On est toujours sur Radio Cause Commune en FM 93.1 ou dans Paris et dans sa région ou en DAB ou bien sur internet à l'adresse cause-commune.fm sur laquelle vous pouvez faire des dons même parfois en podcast.
Mais pour avoir accès au podcast, il faut soit aller sur le site internet, soit s'abonner.
Ah, ça marche aussi ?
Oui, oui, on peut s'abonner, il y a un flux RSS, ou sinon, bon, on est aussi sur les plateformes comme Apple, Spotify, Deezer, etc. etc.
Très bien. On en apprend tous les jours, écoute. On retourne toujours sur un sujet un peu scolaire. Avant les vacances, ça fait plaisir.
Il faut lâcher, Solal, il faut lâcher, ça y est. Le bac de français est passé. Il faut partir en vacances.
Bah justement, on va parler d'un truc qui dont on s'en fout un peu en fait du bac. On va parler de Parcoursup. Alors Parcoursup, si vous savez pas, c'est une plateforme du ministère de l'Éducation en France qui permet en gros de répartir les élèves pour leurs études supérieures. C'est-à-dire que pendant l'année terminale, les élèves font des vœux pour s'inscrire à des universités, certaines écoles, et ils sont informés avant le bac de là où ils ont été ou pas acceptés. Donc, Donc c'est un site qui est créé en 2018.
Après le bac, c'est école ou enfin grandes écoles ou comment on appelle ça, ou fac.
Fac, bah tout ce qui est enseignement supérieur en fait.
Ouais.
Sauf que donc ça sort en 2018. Et ce qui la critique qui en est faite dès le début, c'est que c'est calculé par un algorithme. Pas ou peu d'interventions humaines dans la manière dont sont répartis les élèves, et c'est selon des critères qui sont très flous et qu'en fait encore aujourd'hui on a du mal à comprendre. Il y a ce problème où les lettres de motivation, typiquement, on s'est aperçu assez rapidement qu'elles ne servaient à rien. Il y avait eu cette affaire d'une élève qui avait envoyé une lettre de gâteau à sa fac. Une recette de gâteau et qui avait été acceptée alors qu'en plus c'était quelque chose d'assez prestigieux il me semble une fac de droit, et elle avait été acceptée parce que elle venait de Paris d'un lycée qui était assez prestigieux, et du coup en fait personne n'avait pensé à lire sa lettre d'admission.
Ouais, donc c'est vraiment de la grosse blague, quoi.
Bah, c'est ça, c'est très flou, on s'aperçoit qu'il y a des élèves qui, du coup, ne trouvent pas d'école, malgré le fait que certains, c'était des très bons élèves qui ne trouvent pas d'école, parce que l'algorithme est flou et se base sur, en fait, des critères dont même le ministère a l'air de ne pas vraiment savoir, parce que même les fois où ils ont accordé des interviews pour l'expliquer, ils étaient... en incapacité de répondre. On a eu encore l'exemple il y a quelques temps avec Elisabeth Borne, où on lui demande est-ce que vous savez à quel point la géographie de là où l'élève habite compte dans la distribution, parce que comme assez souvent, les élèves des espaces ruraux sont moins bien acceptés et moins bien traités que les élèves des espaces urbains, et elle était en incapacité de répondre. Mais parce que, sûrement parce qu'elle sait que c'est une inégalité et qu'elle n'en a pas grand chose à faire en fait, mais aussi parce que c'est un algorithme qui est tellement flou qu'on n'a aucune idée de la manière dont il marche. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'élèves qui trouvent ça assez injuste, même la manière dont on a de recueillir les informations sur les élèves. C'est-à-dire que Il y a une prise en compte du bac de français, des bulletins de première, et seulement du premier semestre de terminale.
Oui, parce que pour remplir Parcoursup, ça se fait vers Noël, quoi.
Il y a un premier test vers Noël.
On remplit Parcoursup, donc on n'a pas encore ses résultats finaux de terminale, on n'a pas encore le résultat de son bac.
Des vœux définitifs en avril. En avril, c'est clos, les vœux sont vraiment envoyés.
Et donc, on transmet numériquement un dossier comme ça, avec principalement l'année de première, les notes du bac de français. On transmet ça aux facs et aux grandes écoles. Et c'est sur ces critères-là qu'elles se basent pour choisir ou non d'enseigner à un élève pour ses années de post-bac.
C'est ça. Et du coup, ça fait qu'en avril, les dossiers sont vraiment envoyés. Et les résultats tombent début juin à mi-juin à peu près. Et donc, typiquement, ça veut dire qu'il y a la moitié de l'année de terminale qui ne compte pas. Le bac ne compte absolument pas. Alors que, c'est quasiment uniquement sur du contrôle continu, sur potentiellement les appréciations que mettent les professeurs. Mais... est-ce qu'on peut juger un élève qui veut faire de la médecine sur ses résultats au bac de français, typiquement? Et les critiques, elles émanent de là, notamment, avec une orientation qui est absolument incompréhensible. En ce moment, il y a des gens qui se posent la question, mais est-ce que... Le lycée, typiquement, dans lequel on est, il a une plus grosse importance que les notes. Il n'y a pas de coefficient comme au bac. On ne sait pas ce qui compte le plus. Et le problème, il vient de là en particulier. Et
ouais, ce qui est frustrant, c'est d'être évalué, mais de ne pas savoir sur quels critères on est évalué. Parce que ça veut dire qu'on ne peut rien y faire, quoi.
Oui, il y a ça, premièrement. Et puis, il y a ce truc de, si on n'est pas accepté la première fois, on peut retenter l'année d'après. Très bien. Est-ce qu'on peut s'améliorer?
Oui, et puis si...
Il n'y a aucune précision sur les critères sur lesquels on peut s'améliorer.
Si le critère, c'est là d'où tu viens, l'année prochaine, tu viendras du même endroit.
Oui, voilà. Et surtout, est-ce qu'on veut vraiment inciter les élèves à aller dans des lycées mieux répertoriés géographiquement?
Mieux répertoriés, tu veux dire plus prestigieux?
Plus prestigieux ou juste habiter dans une ville?
Oui.
Juste habiter dans une ville, ça booste les dossiers sur Parcoursup. Et c'est particulièrement incompréhensible aussi quand les démarches à faire sont pas forcément claires quand on veut intégrer des grandes écoles. C'est-à-dire que non seulement, typiquement pour Sciences Po, il faut non seulement s'inscrire sur Parcoursup, s'inscrire auprès de Sciences Po, passer plusieurs concours en fonction des Sciences Po qu'on veut prendre, et déjà que c'était pas clair avant quand il fallait juste remplir une liste à la main des écoles qu'on voulait faire. Aujourd'hui, je pense qu'il y a des élèves qui croulent un peu sous les pressions administratives de ce qu'il faut faire pour être, ne serait-ce que juste pour essayer de s'inscrire dans une école.
Ouais.
Et c'est quelque chose, la manière dont on doit s'inscrire pour passer un concours, typiquement, c'est pas quelque chose qui est enseigné au lycée, et c'est une démarche qu'il faut apprendre par soi-même. Est-ce que toi, tu sais comment est-ce qu'il faut faire pour aller s'inscrire au concours Sciences Po, typiquement?
Non, mais j'ai jamais eu l'intention de m'inscrire au concours de Sciences Po.
Voilà, mais même les élèves qui en ont l'intention, typiquement à mon lycée c'est le cas, c'est un travail qu'il faut faire de soi-même.
Et c'est le principe du concours après, on n'est plus dans l'examen, c'est la différence entre l'examen et le concours, quoi. Le concours c'est que les meilleurs et c'est du travail personnel, l'examen c'est on vérifie que t'as le niveau, et tous ceux qui ont le niveau, ils y accèdent.
Oui, mais enfin, il y a quand même ce truc de c'est une culture de comment s'informer, où s'informer, parce que typiquement leur site, en fait, c'est pas sur leur site qu'il faut s'inscrire, c'est sur une plateforme qui leur est propre. Et ça, c'est assez mal indiqué. Enfin, Parcoursup, ça s'ajoute à ça. avec en plus Parcoursup ce truc où ils, au début c'est, ça a été réglé depuis, mais ils ne, n'inscrivaient pas la fiabilité des écoles et du diplôme qui, qu'on pouvait avoir après.
Comment que, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire que il y a ce certaines écoles qui en réalité n'ont pas, dont le diplôme quand on en ressort n'ont pas vraiment de valeur. Il y a eu tout ce qui était arnaque de faire un master au lieu d'un master, ou juste c'est un diplôme qui est donné après pour dans des écoles privées, mais qui n'a pas vraiment de valeur en fait. Et quand on en ressort.
Mmh.
Et ça a été réglé depuis en partie, où aujourd'hui il y a un indice de fiabilité qui est donné, voire même certaines écoles qui ont été totalement dégagées de la plateforme. Mais ces écoles, j'ai envie de dire limite malveillantes,
mmh.
Qui, bah parce qu'elles arnaquent des gens sortis du lycée, elles existent toujours et aujourd'hui elles se revendiquent un peu en contre-système de Parcoursup. C'est-à-dire que dès que les vœux Parcoursup commencent à tomber, eh ben, et j'en ai fait l'expérience sur les réseaux sociaux, on a des pubs pour des écoles qui disent tes vœux Parcoursup n'ont pas été acceptés, Parcoursup ne veut pas de toi, rejoins notre école, nous on t'acceptera, peu importe la situation.
Ouais, tant que papa maman il lâche 20 000 balles pour participer à l'année, quoi.
C'est ça. Et dans ce cas-là, la question aussi, elle est sur comment on fait pour réguler ça, parce que c'est assez dur de passer par une plateforme qui n'est... Enfin, il y a aussi, du coup, ça montre ce sentiment de délaissement et comment des jeunes qui juste font pas confiance à la plateforme à raison...
Mais la plateforme, c'est Parcoursup.
Parcoursup, qui font pas confiance à Parcoursup, mais qui, du coup, vont aller chercher leur orientation professionnelle autre part. C'est assez dommage parce que ces jeunes-là, ils vont se faire arnaquer, quoi. Et à aucun moment, il y aura quelqu'un pour leur dire « Ah non, c'est peut-être pas une bonne idée. » Parce qu'il n'y a aucun moment prévu par l'éducation nationale pour typiquement éduquer les jeunes à la plateforme.
Ah d'accord, vous n'avez même pas une séance de démo pour vous apprendre comment vous en servir ?
Non, les professeurs ils disent « Il faut rentrer les vœux sur Parcoursup. » Ils donnent les papiers nécessaires à rentrer.
Ouais.
C'est même, il me semble que c'est eux qui donnent les identifiants.
Ouais.
Enfin, c'est le lycée qui fournit les identifiants. Mais par contre, il y a c'est pas une démarche automatique que de se faire accompagner par un professeur.
Et il y a pas ce qu'on appelle, enfin moi, ce qu'on appelait à l'époque les conseillers d'orientation.
Si, ça existe toujours, mais ouais. On nous en parle. Moi, on m'en a parlé une fois en 2 ans de lycée des conseillers d'orientation, alors même qu'il fallait choisir nos spécialités déjà. Je sais pas si ce sera la même chose en terminale, mais
ah, on vous a pas demandé ce que vous vouliez faire et choisir avec quelqu'un qui s'y connaît un petit peu les options en fonction ?
Non, c'est un travail qu'on nous demande de faire en autonomie.
D'accord, c'est une remarque en autonomie. Enfin, si vous avez du temps dédié à ça, c'est pas mal.
Non, en autonomie dans le sens chez nous.
D'accord.
C'est pas un temps qui est fait en classe pour faire une recherche sur l'orientation qu'on veut faire, mais ne serait-ce que ce qu'on veut faire dans le futur.
Comment ça ?
C'est-à-dire que à aucun moment il y a une séance qui est organisée pour nous dire qu'est-ce que vous voulez faire, quel chemin d'études il faut emprunter pour faire ça.
Et tu peux pas prendre rendez-vous avec le conseiller d'orientation pour en parler ?
Au lycée, on n'a pas de conseiller d'orientation délégué, faut aller dans un centre d'orientation.
Ouais.
Voilà, ça peut se faire, mais je suis incapable de te dire où est le centre d'orientation le plus proche de moi.
Donc là, je te regarde avec un regard noir parce qu'il est juste à côté de ton lycée quand même.
Je sais qu'il est juste à côté de mon lycée maintenant, mais c'est parce que tu me l'as dit. C'est pas parce que à l'école, on me l'a dit.
D'accord.
C'est,
okay.
Ça, c'est maman qui me l'a dit en question.
En l'occurrence, ouais.
En l'occurrence, voilà. Mais c'est parce que j'en ai entendu parler via des gens dans mon entourage. Personne ne nous l'a dit, mais il y a même moyen que en fait les gens ils soient persuadés qu'on le sache déjà.
D'accord.
Ça j'en sais rien, mais en tout cas en seconde et en première, il y a eu aucun dispositif mis en place autre que les papiers officiels de l'éducation nationale pour nous présenter ce qu'on voulait faire. déjà la segmentation, soit aller en général et choisir ses spécialités, soit aller en technologique et là choisir parmi les multiples formations différentes, à aucun moment ça a été présenté. Et ça, c'est... Ça continue en terminale, surtout que, et là j'ai les chiffres en face de moi, Parcoursup, ça regroupe 15 500 formations de l'enseignement supérieur. Il y a toujours 9000 formations qui ont leur propre système pour inscrire les bacheliers.
D'accord, c'est-à-dire que même si toi tu t'inscris sur Parcoursup, il faut en plus que tu fasses une démarche auprès de ces organismes de formation pour t'inscrire.
Oui, c'est ça. Ou, mais même juste, ça passe pas par Parcoursup. Et ça, je le savais, je l'apprends en le regardant là. Pour faire médecine, on peut pas passer par Parcoursup. Il faut passer par les plateformes spécialisées.
Ah ouais.
Ouais. Et ça, on nous en parle pas. Pareil pour faire certaines écoles, les écoles de commerce. Il me semble que c'est le cas pour les écoles d'art aussi. C'est pas sur Parcoursup non plus. Et c'est des recherches qui doivent être faites de manière personnelle. Et le problème, il est que c'est pas quelque chose qui est organisé par l'éducation nationale, alors même qu'on a Elisabeth Borne qui dit « je veux que dès la maternelle, les élèves aient un... » Ou la primaire.
C'est la maternelle pour elle, elle était très ambitieuse sur ce sujet.
Un programme professionnel.
Bah, elle a démenti après, elle a dit que c'est parce qu'elle voulait dire qu'elle a parlé trop vite.
Oui, non, très bien, mais même si c'était dès le collège, ce qui est pas débile. C'est pas débile que dès le collège, les élèves ils disent « moi j'aime bien en faire ça, ça, ça et ça ». Je vais m'y intéresser plus, etc. Ce serait pas lunaire de le faire. Si c'est accompagné, et si c'est pas juste une excuse pour dire « Ah, vous avez mal choisi, c'est votre faute, vous pouvez vous en prendre qu'à vous-même. »
Ouais, c'est ça, c'est aussi de pouvoir changer. Parce que quand, enfin, moi, c'est ce qui me semble, hein, c'est que quand on te fait choisir trop tôt ton orientation, bah, c'est trop tard ensuite, enfin, c'est ce que tu te fais entendre dire, hein, c'est que c'est trop tard pour changer. Mmh. Et même si ça te plaît pas du tout et que t'es malheureux dans cette branche-là, quoi.
Mmh. Oui,
après, et... bon, je vais me permettre de relativiser aussi. Pour tous ceux qui doivent choisir une orientation, renseignez-vous, parlez autour de vous, à vos proches, aux adultes, etc. La proportion de gens qui font le métier pour lequel ils ont été formés est super faible.
Oui, c'est ça. Et il y a toujours une réorientation qui est possible. Et c'est pour ça que la majorité des gens, la majorité des personnes qui disent ne pas savoir ce qu'elles veulent faire, on leur dit, bah, continue en général, choisis les matières que t'aimes bien.
Quant à un bon niveau.
Oui, ensuite, bon niveau, en général, bon niveau, avoir plus de 10, avoir plus de la moyenne, on se fait accepter en général.
Ouais, mais enfin la générale, c'est quand même, enfin c'est ardu, c'est ce que tu nous disais, c'est que il y a quand même trois gros types d'orientation professionnelle, technologie, enfin technique et générale. Mm-hmm. Et la générale, c'est la plus exigeante.
Oui, mais la générale, c'est aussi celle qui rassemble la moitié des gens ou un bac général. La moitié d'une génération a un bac général en sortie du lycée. Et dans le sens, bah, effectivement, si on pour les élèves qui sont en difficulté, c'est vrai qu'il y a souvent ce réflexe qui est pas un bon réflexe de les dégager un peu vers les filières professionnelles ou technologiques. Mais du coup, par la même occasion, en dégradant ces filières et en disant, en gros, ça va être des filières, il y a des gens qui parlent de filières poubelles quand même. Alors que tu vas faire STHR, donc travailler pour devenir restaurateur, tu peux devenir chef étoilé.
Bah ça, c'est un autre problème, mais je crois qu'effectivement, il y a beaucoup de mépris mal placés pour certaines formations et que ça ne correspond pas du tout au monde dans lequel on vit, quoi.
Bah, j'ai envie de dire, limite, si ça correspond au monde dans lequel elle vit, dans le sens où ces élèves-là, ils vont être confrontés à du mépris dû à leur éducation et dû à leur niveau social, souvent aussi, dès le plus jeune âge. Donc, en soi, c'est assez représentatif du monde dans lequel on vit, où ils vont se faire mépriser parce que ils réussissent pas à l'école ou parce qu'ils ont pas bien réussi dans leur vie.
Moi, j'avais cet exemple en tête avec des gens qui faisaient sciences et techniques de l'ingénieur. qui était un bac réputé technique, mais qui en fait était très précis et ouvrait autant que à l'époque c'était la terminale, enfin le bac S aux écoles d'ingénieurs, qui était plutôt bien vu et tout ça. Et à côté, bon ben quand t'as fait des études de littéraire ou histoire, bon bah à part être chercheur ou prof d'histoire, c'est un peu limité quoi.
Aujourd'hui, c'est toujours le cas avec le système de spécialité. Ces voilà. défaillances du système S, L et ES, elles existent toujours où on va recommander aux élèves qui au collège ont plus de 15 de moyenne de foncer sur le scientifique. On va dire aux élèves qui font L que s'ils vont pas en école de lettres après, s'ils font pas des grandes écoles, ils vont devenir prof, bibliothécaire ou sinon travailler au McDo. Ça existe toujours. Et ça, c'est ce truc de valoriser uniquement la science dure aux sciences littéraires et même aux sciences sociales. C'est quelque chose qui existe et qui continue d'exister, en fait.
Est-ce qu'on passerait pas un peu de musique avant de passer au troisième sujet qui est le parasocial?
Parasocial.
Hein? Et puis peut-être qu'on pourra appeler des fantômes. Non, ou je confonds avec autre chose.
Je pense pas que ce soit ça. Bon, on passe Rush de Troye Sivan.
Talk to me, baby, love. If you wanna show me why you've been scheming up, if you wanna. But don't trust the simulation. Don't you let it break every simulation. Promise I can take what you wanna get, boy. You better show me why you've been scheming up. You got my heartbeat racing, my body.
De retour à l'antenne de Cause Commune 93.1 FM et la musique continue.
Non.
Ah, j'avais bien pris l'antenne et tout, et là la musique reprend et nous gâche tout.
On réussira mieux la fois d'après.
On est toujours dans l'émission Ouvre-la.
C'est ça, l'émission d'un lycéen et de toi. Voilà, on est toujours en DAB ou sur le site de Radio Cause Commune, cause-commune.fm.
Vous pouvez nous écouter en FM aussi?
Oui, en FM, 93.1.
Vous nous écoutez peut-être en podcast ou bien peut-être que vous écoutez...
En rediffusion.
Exactement.
Voilà. Et oui, du coup, on enchaîne sur le dernier sujet, le parasocial.
Et juste pour dire, non, si, ah oui. Pour savoir si on est en rediffusion ou pas, il suffit de regarder la date et l'heure. Si il est presque 15h le dimanche...
Le 29 juin.
Le 29 juin, bah vous êtes en direct.
Sinon,
si vous c'est pas la bonne heure,
sûrement
c'est pas la bonne date, c'est une rediffusion.
Alors, le parasocial, est-ce que toi tu sais ce que c'est?
Bah, c'est ce que je disais avant de mettre de la musique. Pour moi, le parasocial, c'est les fantômes et toutes les conneries comme ça.
Alors, non, c'est le paranormal Ghostbusters. C'est pas non plus les paramédicales. Le paramédical, ça, c'est, ça a un peu rien à voir non plus. Non,
les,
le parasocial.
Les petites graines de sucre, là, non, c'est pas ça.
Comment ça?
L'homéopathie, c'est pas du,
le paracétamol.
C'est pas du paramédical. Le paracétamol, c'est bon.
Bon. Non, alors le parasocial, la définition officielle que j'ai trouvée, c'est un lien à sens unique qu'on forme avec des personnages fictifs, des célébrités ou encore des influenceurs et des influenceuses. En gros, l'exemple concret, ça va être quand on va toutes les semaines regarder la même émission à la télé et qu'on va avoir l'impression de connaître la vie et qui est vraiment le présentateur de télé. Voire même, dans des cas extrêmes, ça va être développer des sentiments pour lui. C'est pour le coup... Et c'est... Quand on en parle, en général, c'est quand ça cause des problèmes. On va avoir... je sais pas moi, une célébrité qui se fait tuer par un de ses fans parce que il s'est mis en couple et que la personne s'est sentie trahie. Ça va être des cas extrêmes qu'on va faire ressortir, mais en fait le parasocial c'est quelque chose que beaucoup de personnes ont ce sentiment de à travers un média, donc ça peut être la télé, ça peut être leur téléphone, qui vont avoir l'impression de vivre avec quelqu'un d'autre ou en tout cas de connaître la personne. Mmh. Avec typiquement des célébrités, on l'a vu avec Gérard Depardieu il n'y a pas très longtemps. Avec Norman sur YouTube. Des célébrités qui font des crimes et qui sont arrêtés pour ça. Et certains de leurs fans qui vont être en mode « Non mais moi je le connais, il n'aurait jamais fait ça », alors que ces personnes-là ne l'ont jamais rencontré en fait.
Oui.
Et avec ce lien qui n'est donné que par en fait l'image qui présente et qui est refaite en fait, que ce soit bon par le fait de jouer à la télé un personnage, même dans des émissions où on doit être entre guillemets soi-même, dans une émission de télé-réalité, les gens jouent quand même un personnage en vrai.
Oui.
Ou bon via même quand c'est pas en direct, bah jouer ce personnage, mais en plus. Être interrompu, être coupé pour avoir l'impression que la personne parle toujours super bien, ou le fait que la personne derrière, elle a des intérêts aussi, elle fait ça pour gagner son pain, en fait, et elle fait de la pub, etc.
Ouais, mais Jean-Luc Reichmann, il est quand même super sympa.
Bah, justement, et c'est là qu'on va se dire, à travers la télé, ah là là, je connais cette personne... Et mon opinion sur cette personne, c'est pas l'opinion que j'ai sur l'image qu'elle me projette, c'est l'opinion que j'ai juste sur cette personne que je connais, dont je sais identifier certains aspects de sa personnalité, comme on pourrait le faire avec quelqu'un qu'on connaît dans la vraie vie, en fait. Et bah du coup, ça peut poser des problèmes. Donc, j'ai parlé des problèmes extrêmes qu'on a quand... quelqu'un pète un plomb et va commettre un espèce de crime passionnel pour une célébrité. Mmh. Mais c'est aussi ce problème de juste les personnes à la télé n'existent pas en réalité. C'est-à-dire que c'est des personnages, quoi. Et dont on peut... qui ne sont pas représentatifs de la réalité, surtout. Avec, moi, mon problème, c'est quand des gens vont voir quelque chose à la télé et se dire « Ah, c'est comme ça qu'est la vie. » Du genre, voir une discussion comme elle est montrée à la télé, elle n'est pas dite de la même manière qu'on aurait une discussion sur le même sujet dans la vraie vie. Que ce soit dans une série, voir deux personnages se disputer, ou même, plus simple, deux personnages avoir une relation amoureuse, cette relation amoureuse, elle fonctionnera pas de la même manière à la télé qu'une relation amoureuse fonctionne dans la vraie vie.
Oui, j'ai remarqué que la BO, elle est un peu pourrie dans la vraie vie.
Bah oui, déjà, c'est vrai que quand un personnage pleure à la télé, il y a une musique triste qui est derrière. Dans la vraie vie, quand on chiale, on fait juste des bruits dégueulasses et on n'est pas toutes maquillées.
Puis la dernière fois que j'ai pleuré, il y avait les Spice Girls qui chantaient Gimme Gimme Up, et ben ouais, ça collait pas, quoi.
Bah, oui, voilà. Mais surtout, aujourd'hui, le problème que j'ai avec le parasocial, c'est celui que je vois sur les personnes que je côtoie, notamment les jeunes. C'est-à-dire que bon, le parasocial, ça se fait, oui, à la télé avec des personnes réelles, mais ça peut aussi se faire avec des personnages fictifs. Et c'est quelque chose qui marche très bien chez les jeunes, de s'attacher profondément à un personnage de jeu vidéo, à un personnage d'animé, bref, à quelqu'un qui n'existe pas concrètement, quoi.
À sa petite amie qui est une IA.
Et c'est là qu'on a... Aujourd'hui, il y a des relations 100% virtuelles qui existent. Soit avec des personnes qui n'existent pas, mais aussi avec des personnes qui existent.
Oui.
Typiquement, est-ce que être en relation 100% en ligne où il n'y a pas de contact physique, il y a juste des appels, etc. Est-ce que c'est vraiment une relation? Et dans ce cas-là, est-ce que ce serait différent d'une relation avec une IA, typiquement? Il y a une question qui se pose là. Pour le coup, c'est des questions qui se posent là-dessus. Mais moi, la remarque que j'ai sur le... Enfin, la remarque... Ce que je remarque sur le parasocial, c'est quelque chose que j'ai observé au lycée d'abord, et puis après, je me suis un peu renseigné. C'est le jeu vidéo Love and Deep Space. Alors, le jeu vidéo Love and Deep Space, qu'est-ce que c'est ? Deep Space, c'est un jeu vidéo de dating. Donc,
de dating, de flirt.
Oui, de flirt.
Pour les plus anciens, je me permets de... Voilà, tu souris, mais moi, je me permets de traduire pour les plus anciens qui n'utilisent pas les anglicismes et qui disent encore, oui, je suis en train de flirter avec une collègue plutôt que j'ai un date avec une relation.
Voilà. Concrètement, le principe du jeu, c'est un jeu qui est dirigé vers un public féminin, c'est-à-dire qu'on va pouvoir... tomber amoureux, faire des rendez-vous avec un homme dans son téléphone. Et aujourd'hui, c'est un jeu dans lequel on peut faire des achats pour accélérer la relation. J'y ai pas joué, donc je sais pas vraiment. Là, j'imagine un peu parce que je me doute de comment ça marche. Donc, dans lequel on peut acheter des vêtements, typiquement. Et c'est un des jeux payants sur téléphone qui marche le mieux aujourd'hui. Il me semble que c'est le premier ou le deuxième du marché en fonction des mois.
D'accord.
Pourquoi ? Parce que c'est le premier jeu du genre qui s'intéresse au public féminin, en fait. Pendant longtemps, c'était quelque chose qui était uniquement adressé au public masculin. Et là, en fait, ça marche très, très bien. Et sur la même lignée, aujourd'hui, il y a... pas très longtemps, un jeu un peu du même genre qui est sorti, qui s'appelle Date Everything, qui, de la même manière, est un jeu de dating, mais qui, là, propose... Le principe est assez drôle, c'est de sortir avec des objets de sa maison. Donc, le principe du jeu est très drôle, hein. Un jour, on vous apporte des lunettes magiques, vous entrez dans votre maison, et vous vous apercevez que vous pouvez faire parler les objets de votre maison.
Donc on peut tomber amoureux de sa petite cuillère.
Exactement.
Ou à l'inverse, c'est le couteau à beurre qui va absolument essayer de te séduire.
Et ben voilà. Et c'est un jeu qui marche très très bien, non seulement parce que c'est très très drôle. Le jeu est très bien pensé. Il est fait par des acteurs de doublage très connus. Le jeu est bien fait. Mais aussi parce qu'il y a vraiment ce côté ne pas être seul avec les personnages qui ont l'air vraiment vivants. Et le parasocial, dans ce cas-là, c'est le produit entier du jeu. C'est-à-dire que la seule raison, ça va être de s'attacher à ces personnages qui n'existent pas. Et ça marcherait bien non seulement parce que c'est drôle, mais parce que les personnages sont vraiment attachants aussi. Et les gens ont vraiment forgé... une relation d'attachement au personnage qui ne sera pas réel. La majorité des gens ont conscience que ils sont pas en train de tomber amoureux de leur petite amie cuillère dans un jeu. Mais ça va créer vraiment un sentiment de ne pas être seul. Ils vont avoir l'impression, et c'est en fait l'essence de la télé et des jeux vidéo hein, à la base, avoir l'impression d'avoir vraiment quelqu'un en face de soi.
Ben, pour tous ceux qui ont des sentiments pour leur table de chevet, ça leur donne une ouverture.
Non, mais et vraiment, je pense que et dans ce sens-là, le parasocial, il touche tout le monde. Il va exister en chacun de nous dès lors, mais même dès qu'on va lire un livre, en fait. Dès qu'on va lire un livre et qu'on va se dire « Ah là là, ce personnage-là, c'est mon personnage préféré. S'il existait, j'aimerais passer ma vie avec lui, quoi. » Ça existe déjà dans ce point-là et c'est pas forcément négatif, en fait. Mais je pense que c'est intéressant de s'interroger dessus et de voir comment ça nous affecte, en fait.
Et moi, j'entends complètement ça. Ce que je me... Comme dernière question, ce que j'ai envie de te demander, c'est quelle différence, dans ce cas-là, tu fais entre le social et le parasocial ?
Bah, le parasocial, il y a vraiment ce truc de c'est à sens unique. La personne en face ne sait pas que vous existez. Soit parce que la personne en face n'existe pas dans les cas que je viens de citer, soit parce que en face de la télé, vous aurez beau trouver Nagui magnifique, c'est pas pour autant qu'il vous connaîtra. et c'est vraiment cette différence entre l'image qui est présentée et comment est vraiment la personne.
Et par contre, la personne à qui tu te confies, enfin l'IA à qui tu te confies, elle par contre, elle va bien retenir toutes les informations que tu vas lui donner et elle va s'en servir et elle va alimenter une base de données de tes habitudes et de ton profil pour te vendre de la publicité.
Ça effectivement, c'est le problème qu'il y a toujours derrière dès qu'on est sur Internet. Mais bon, c'est pour ça qu'on prône pour un Internet libre et totalement libéré de l'influence capitaliste.
Voilà, donc on peut écouter Libre à toi. C'est tous les mardis après-midi, je crois, sur Radio Cause Commune.
Bah voilà, et c'était Ouvre-la sur Radio Cause Commune.
Eh oui, on entend déjà le générique derrière. Ça fait bientôt une heure qu'on est ensemble. Merci beaucoup, Solal.
Merci à toi, surtout d'avoir cette fois en plus fait la sono.
La technique.
Oui, d'avoir fait la technique pendant toute l'émission. Pour le générique, on est en train d'écouter Immaterial de Sophie. On a aussi écouté en premier Gimme a Chance de Dreamer Isioma et Rush de Troye Sivan.
Ah oui, c'était quoi là le petit truc funk là au début?
Gimme a Chance de Dreamer Isioma.
Dreamer Isioma, ok. Voilà. Et qui viennent d'où? Enfin, tu les as connus comment?
C'est des trucs que j'ai découvert un peu par hasard en me promenant sur Spotify.
D'accord.
Dreamer Isioma a sorti un nouvel album il y a quelques mois que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle Star X Lover. Si j'ai choisi ces albums, c'est parce que c'est bientôt la fin du mois des fiertés. Ces albums, ces artistes, parce que c'est bientôt la fin du mois des fiertés. Et que du coup, j'ai essayé de choisir des artistes qui étaient de la communauté LGBT quand même, parce que bon, c'est déjà, c'est pas très dur de trouver des artistes LGBT, parce que ils ont fait ça fait très longtemps qu'ils font de la très bonne musique. Et aussi pour vous les recommander, quoi.
C'est une très bonne sélection. Moi, j'ai bien aimé les deux chansons qu'on a écoutées. Et puis ce générique qui nous accompagne depuis
6 émissions
maintenant, donc depuis 6 mois, je le trouve très très bien. Il est très dynamique, très, très adapté à l'émission que tu as envie de faire.
Voilà. Je pense qu'on peut se dire au revoir. Et puis là, c'est les vacances, donc peut-être pas d'émission en juillet, mais...
Juillet-août, on verra, oui, probablement.
Verra,
peut-être une petite émission avant la rentrée.
Oui, c'est ça, pourquoi pas.
Eh bien, très bien, on vous donne rendez-vous à la fin du mois d'août. Bonne soirée, bonne fin d'après-midi, pardon, à l'écoute de l'antenne de Cause Commune.
Voilà.